franceinter.fr.
Pop, etc. Avec Valérie sur France Inter.
Vers la fin des années 70, il y avait vraiment deux catégories de groupes français. Ceux dont Frenchy Buck Cheek avait parlé et les autres. Le rêve secret de la deuxième catégorie était bien évidemment de passer dans la première. Ceux de la première catégorie avaient plus de monde à leur concert, plus de filles surtout. Ils étaient sur la guest list permanente du Rose Bonbon. Bien sûr, Facebook n'existait pas et le disque d'or était encore à 100 000 exemplaires. Mais on s'en foutait un peu des disques d'or, on voulait juste rentrer au Rose Bonbon, avoir assez d'argent pour continuer à acheter nos vinyles chez New Rose et que Frenchy Buck Cheek parle de nous. Le reste n'avait aucune importance. C'est le témoignage de Fabrice Nataf, ex Little Buddy and the Kids et l'ancienne DA de Virgin qui plante le décor de la pop, etc. de ce soir. C'est un extrait de la préface du recueil de la chronique Frenchy Buck Cheek paru dans Rock and Folk de 1978 à 1982, sorti au début de l'été chez Camille en Blanc. Son auteur est mon invité ce soir. Bonsoir Jean-Éric Perrin.
Bonsoir Vali.
Avec nous aussi deux artistes qui figuraient dans la première catégorie dont parlait Nataf, Patrick Vidal du groupe Marie et les Garçons, bonsoir.
Bonsoir Valérie.
Comment allez-vous?
Très bien.
Et à Rennes, dans les studios de France Bleu Amérique, Franck Darcel, ex-marquis de Sade. Bonsoir Franck.
Bonsoir Valérie.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Je voulais savoir si vous étiez tous toujours Frenchy Buck Cheek en 2013.
Forcément, bien sûr. Il suffit de nous regarder.
Ça, c'est vrai. Et tout à l'heure, au téléphone, il y aura la jolie et talentueuse Mona Soyok des Cass Products. Le premier couple de cette vague qui déferlait sur la France s'appelait Ellie et Jack No. Ces jeunes gens modernes issus de la scène punk ont fait leurs dents dans les Stinky Toys et ont partagé la scène avec les Sex Pistols à Londres. En 1980, ils chantaient main dans la main. Très bonne soirée sur France Inter.
Thank you.
Un loup-garou peut-il être lui aussi le meilleur ouvrier de France? Telle est la question terrifiante qui se pose aujourd'hui et que nous allons enfin réfléchir dessus tout simplement jusqu'à 21h. Pas trop fort, parce que réfléchir trop fort aujourd'hui, ça fait mal dans la tête. Bonjour, c'est Patrice Blanc-Franca.
Vous avez peut-être reconnu Patrice Blanc-Franca, c'était en 1979. Exactement, et on est là jusqu'à quand même 1h du matin. Mes invités ce soir dans Pop, etc. sont Jean-Éric Perrin, Patrick Vidal et Franck Darcel pour parler de la chronique Frenchy But Chic 1978 à 1982. Ce recueil est sorti aux éditions du Camion Blanc. Jean-Éric, vous êtes l'auteur de cette rubrique
le coupable paru dans
Rock et Folk. Il y en a eu 47 en tout. Alors, elle parlait de la musique post-punk en France, dans toute la France, c'est important de le dire. Mais est-ce que c'est le renouveau de la scène pop française actuelle qui vous a donné envie de ressortir
c'est vrai, de le ressortir absolument. C'est même pas une idée d'ailleurs à moi. Moi, j'avais totalement enterré ça au rayon des souvenirs. Et ça avait été un petit peu réveillé il y a quelques années quand il y avait une excellente exposition à la galerie Agnès B qui s'appelait Les Jeunes Gens Modernes. C'était en 2008. Et d'un seul coup, j'avais découvert qu'il y avait des tas de gens qui n'avaient pas connu cette époque et ces groupes qui étaient tout à fait intéressés par cette période, par ce moment qu'on avait vécu avec Patrick et avec Franck et avec tous les autres. Et qui était un peu, qui était notre folle jeunesse où on rentrait tous dans ce métier sans avoir les codes, puisqu'on avait, on rentrait en forçant un petit peu la porte. Que ça soit du côté musicien ou du côté critique. Et puis voilà, bon, tout ça était une époque qui était lointaine. Et puis voilà, d'un seul coup, il y a plein de gens.
Ouais,
il y a 35 ans, ça
ne
se voit pas sur nos visages juvéniles. Mais ça fait quand même, ça fait quand même du nombre. Et du coup, c'est devenu un espèce de, depuis quelques années, un espèce de thème qui revient. Il y a plein de groupes aujourd'hui, on en parlera peut-être. Il y a un groupe qui s'appelle La Femme, par exemple, qui fait une reprise d'un morceau de Marie les Garçons. Il y a un groupe qui s'appelle Aline, qui fait une reprise des Désaxés. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas connu ces groupes de leur vivant puisqu'ils n'étaient pas nés, qui s'y intéressent. Et il y a eu l'Escope, il y a eu tout ça. Et puis en fait, l'éditeur un jour m'a dit, mais au fait, ta rubrique, c'est culte. Si on en faisait un livre, j'ai dit, après tout, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et donc voilà, ça s'est fait.
Le soir devant ma classe, je m'entraîne à bouger en cadence, à me rapprocher de la reine. Je la suis à la trace, mais elle me sait. Légère et arrogante, elle glisse sans chercher à me plaire. Dans la forêt, première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne. Puis doucement s'écroule. Ta meilleure amie, t'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale, cette fois j'ai gagné.
Et oui, c'était Aline, l'escope et la femme qu'on écoute. Patrick Vidal, est-ce que vous reconnaissez, ou plutôt Franck Darcel, est-ce que vous reconnaissez dans cette nouvelle scène pop dont on vient d'entendre quelques extraits?
Ouais, je la connais pas très bien, du coup je savais pas si c'était des morceaux d'il y a 35 ans, ou si c'était maintenant.
Aline, ça, c'est
le troisième en tout cas est troublant, parce qu'on a vraiment l'impression de redécouvrir des choses de ce moment-là, qui, comme le dit Jean-Éric et le confirmera sûrement Patrick, était relativement unique, mais qui a été quand même enclenché par le punk, c'est-à-dire l'idée de reprendre à zéro. Et sauf qu'en France, effectivement, et en Bretagne aussi, d'une certaine manière, on l'a fait d'une manière un peu différente. Et c'est ça que Jean-Éric avait bien réussi à sentir. Et c'est pour ça que sa rubrique est aussi devenue aussi emblématique et importante pour tout le monde, pour tous les groupes qui pouvaient y passer. C'est qu'il avait senti que là, dans l'Hexagone, il se passait quelque chose de différent. Et voilà, les morceaux qu'on vient d'écouter, franchement, ils auraient été enregistrés il y a 35 ans, ou maintenant, ça ne fait pas une grosse différence.
Quoi. Ah bon, les artistes vont être contents, je pense, en tout cas.
Ah bah non, c'est pas une critique en soi.
Patrick Vidal, votre groupe d'alors, Marie les Garçons, est le sujet de la première chronique de la série Frenchy But Chic, dans sa manière d'écrire, très Johnny Staccato. Jean-Éric Perrin vous dépeint ainsi. Dangereux extrémistes ont réussi l'alliage riff anarchiste, new wave et rythme disco capitaliste. dialectique pernicieuse visant à faire oublier par la pratique forcenée de la danse les idéaux économico-politiques des deux blocs et du tiers-monde. Quelle fut votre réaction ?
Ben, on était ravis parce que c'est vrai que personne ne savait vraiment comment nous cerner à l'époque. Nous-mêmes, d'ailleurs, on n'arrivait pas trop au bout d'un moment parce qu'on voulait tellement aller très vite, casser les codes rock'n'rolliens le plus rapidement possible parce qu'on voulait vraiment dépoussiérer le blues, le boogie rock, tout ça, que les Français n'ont jamais su maîtriser. Et donc, on est parti tout de suite avec les influences new-yorkaises et donc on a été très, très vite, beaucoup trop vite d'ailleurs, puisqu'on est passé du révélation New Wave à groupe disco. Ils ont vendu leur âme, c'est fini. Patrick Vidal se prend pour Patrick Juvet, ce qui n'était pas du tout le cas. Et voilà, et du coup, ça a été un groupe. Une météorite, quoi. C'était incroyable.
En plus, à l'époque, je crois que c'était Trost et Téléphone qui étaient les groupes rock qu'on écoutait à cette époque-là. Voilà. Marie et les garçons ont fait la tournée française avec Patti Smith et Talking Heads, les darlings de la scène arty new-yorkaise. Ils portaient des crocodiles sur la poitrine comme les Heads. Il y avait une fille à la batterie comme des Velvets. Ils étaient Frenchy, but chic. Marie et les garçons dans Pop, etc. Marie et les garçons dans Pop, etc. C'est un extrait de l'album 76-77. Donc, c'est un album live enregistré à Paris, mais sorti chez New Rose. Mais sur la pochette, on voit votre groupe. CBGB's, quand même, c'est un peu trompeur, mais en tout cas, vous avez joué.
Oui, on a joué lors de l'enregistrement de Rebop avec John Kell. On a joué au CBGB et le lendemain, on a un coup de fil. Il fallait qu'on rentre à Paris faire la première partie de Patti Smith à Porte de Pantin, au Pavillon. Donc, en trois jours, on a fait John Kell en studio, CBGB et Patti Smith.
Le rêve
et un tube, parce que Rebop, c'était un tube aussi.
Rebop que j'ai passé dans Pop, etc. Au printemps, quand j'ai parlé d'Alain Pacadis. Donc, j'ai pas fait un audit. C'est beaucoup plus pop, c'est différent,
oui.
En tout cas, en plus, j'ai remarqué seulement maintenant que Jean-Éric porte une crocodile aussi sur sa poitrine ce soir. Alors, on parle de Rose Bonbon, Nataf, on parle comme le mec du post-punk de la capitale, un peu, je ne sais pas si on peut comparer à CBGB's, où j'allais aussi sans doute en se croiser sans le savoir. Quelle était l'ambiance Rose
L'ambiance de Rose Bonbon, en fait, c'était assez. C'était pas aussi électrique que la légende le veut bien. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en France, on a une vision très nocturne de la musique et des clubs, et en fait, rien commence avant 2h du matin. Or, la semaine où il y avait tous les soirs des groupes de cette génération qui jouaient au Rose Bonbon, dans la mesure où leur public potentiel était soit étudiant, donc le lendemain ils avaient des cours, soit jeunes travailleurs, donc le lendemain il fallait qu'ils aillent à leur boulot. C'était un peu difficile de rester jusqu'à 2h du matin, puis il n'y a plus de métro à l'époque, c'était un peu compliqué.
À l'époque,
donc, en fait,
c'est toujours pareil. Hein.
Les concerts, ouais, c'est toujours pareil. Donc les concerts, en fait, souvent c'était assez clairsemé, mais bon, il y a eu des moments assez transcendant au Rose Bonbon. Et puis, il y avait effectivement toute cette scène-là. C'est-à-dire que Moi, j'y allais quasiment tous les soirs ou presque. Enfin, je faisais le circuit entre le rose-bonbon et les bains-douches. Et bon, bah, on croisait les gens de Modern Guy, on croisait les gens de Taxi Girl. Voilà, on habitait là, en fait, quelque part. Mais souvent, on était un peu entre nous, quoi.
Alors, Frank Darcel, Ren était aussi vraiment une fourmilière de groupes. Marquis de Sade, Etienne Dao Jr., les Sax Pistols, il y avait Fracture, les Nus. Y avait-il des clubs comme Rose Bonbon? Est-ce que c'était facile de jouer sa musique à Rennes?
Non, ça a pris beaucoup plus de temps. En fait, le Rose Bonbon, quand on a pu jouer avec Marquis de Sade, c'était précisément le 1, 2, 3 janvier 1979. À l'époque, on n'avait pas l'équivalent à Rennes du tout. Il a fallu attendre vraiment les premières transmusicales, donc en juin 79, je crois. Et à partir de là, on a commencé à avoir des clubs à Rennes, le Paradise, des choses comme ça, qui sont devenues intéressantes. Mais on avait sur les premières années, 77, 78, 79, en réalité, c'était toujours gratifiant de venir à Paris, de jouer au Rose Bonbon, même si, comme le dit Jean-Éric, l'Assemblée pouvait être un peu clairsemée, il se passait quand même quelque chose et c'était important de jouer là par rapport aux maisons de disques qui étaient toutes sur Paris. Et Rennes a mis plus de temps à rentrer dans la danse d'une certaine manière. Il a fallu attendre l'éclosion réelle et transmusicale, plutôt la deuxième version, les années 80. Et là, les clubs ont commencé à ouvrir. Mais pour nous, jusqu'à la fin des années 70, il était important d'aller jouer à Paris, y compris au Golfe de Rouault, alors là, lui qui remontait à une autre époque. C'est là qu'on pouvait retrouver un peu les effluves de ce qu'on avait pu croiser à New York, si on était allé un petit peu, ou à Londres.
Comme vous c'était l'avez fait aussi.
Le seul équivalent, en fait, oui.
Oui, parce que je me pose la question parfois, cette scène rennaise, est-ce qu'elle est née grâce au Frenchy Butchik et,
non, et, elle existait et... déjà. Enfin, elle est née... elle est forcément avant, parce qu'il faut quand même le temps de l'apprentissage. Mais c'est vrai que moi, la première fois où je vais à Rennes, enfin, la toute première fois où je vais à Rennes, en fait, c'est au tout début de Frenchy Butchik, c'est en décembre 78, donc la rubrique a un mois. Et dans un bar, je rencontre Dominique Tarlet, qui est le fameux photographe des Rolling Stones, qui était pendant un temps très bref le manager des Stinky Toys, qui me dit « Tiens, on va aller jouer à Rennes, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Moi, évidemment, je dis, mais bien sûr, vous pouvez compter sur moi, je serai là. Donc, on part dans une espèce de van tout pourri, sans chauffage et rien. Et en fait, le concert était organisé à la fameuse salle de la Cité où ont eu lieu les premières transmusicales, enfin, les 10 premières années au moins des transmusicales. Le concert était organisé par un fan qui s'appelait Étienne Dao, qui n'avait aucune idée qu'il serait un jour chanteur. Et en fait, il avait monté une association étudiante pour pouvoir organiser un concert, uniquement parce qu'il était dingue des Sticky Toys. Et donc, en première partie, enfin, il y avait eu un peu une histoire parce qu'ils étaient plus célèbres sur place. Donc il voulait passer. Enfin voilà, en tout cas, le concert, là, c'était un double bill avec Marquis de Sade et les Stinky Toys. Et donc, à partir de là, moi, je suis revenu à Rennes peut-être 3 mois plus tard pour voir les Marquis de Sade et pour faire donc, le premier papier dans Frenchy sur les Marquis de Sade. Et puis après, ça a été un enchaînement. J'avais croisé donc Dao au moment de ce premier concert. Donc, on s'est revus après. Et puis après, il y a eu tous les groupes. Et moi, à un moment donné, j'habitais la moitié du temps à Rennes parce que c'est là où on rigolait, quoi.
Et je crois que vous avez une petite copine aussi. J'ai lu le livre, attention. Hein.
Alors, ça prend des fiancés en Bretagne assez rapidement quand même.
Bon, Franck, ce qui reste, c'est comme Las Vegas, ce qui est à Rennes ne sort pas de Rennes.
Alors, le rock chanté en français, il se faisait partout. The Dogs à Rouen, Marie et les Garçons à Lyon, Marquis de Sade à Rennes, Casse Product à Nancy. Avaient-ils tous une identité régionale? Je ne sais pas, Patrick Vidal, moi, de Marie et les Garçons, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça.
Je n'ai jamais eu ce sentiment, moi, du tout. Parce que nous, on a vraiment été éduqués par Warhol, les films de Morrissey et La Factory. On s'est trouvé une filiation directe. Et quand on a vu que le magazine de Michel Esteban, Rock News, existait, qu'il y avait quelques groupes à Paris, 1984, tout ça, on s'est trouvé toujours en rapport avec eux. Mais non, j'ai jamais eu l'impression de faire du rock lyonnais. Mon Dieu, quelle horreur. Je trouve ça tellement réducteur. Non, moi, j'avais déjà des influences de Roxy, de Bowie et du Velvet, et c'est tout. Après, on a fait notre propre transcription de ça. Au travers de Dashiell Hedayat, qui a été un des disques les plus importants parce qu'il nous a appris comment chanter en français sur du rock, parce qu'avant c'était quand même très difficile, et William Burroughs avec le cut-up. C'est comme ça qu'on est, enfin, et puis en fait après on a éludé tout ça, on a coupé dedans pour arriver à faire Rebop où il y a 2 lignes de texte, et Marie Garçon est devenu un groupe avec le plus peu de texte possible dans une chanson, ce qui a fait que plus personne ne nous comprenait du tout à la fin.
Alors Frank Darcel, avec Olivier Pollard, vous avez co-dirigé l'excellent livre Rock 50 ans de musique. musique électrifiée en Bretagne, le tome 1 est de 1960 à 1989 aux éditions de Juillet. Le deuxième tome vient d'arriver, en tout cas Jean-Éric l'a apporté, il pèse au moins 5 kilos. Vous pensez quoi, rock en Bretagne, rock à Lyon? Alors qu'est-ce que vous en dites?
Ah non, mais moi je comprends ce que veut dire Patrick, il y a des terminologie réductrice. Il se trouve juste que la Bretagne est proche de la Grande-Bretagne. Ben, voilà, on verra tout de suite l'analogie. Et que nous, dès 78, quand on était étudiants, ben, c'était facile de prendre le bateau de Saint-Malo et d'aller passer le week-end à Londres en passant par Portsmouth. Et de fait, on a beaucoup de gens à Rennes étaient au premier concert des Sex Pistols très, très vite. Et Rennes a été rapidement nourrie de ce qui se passait à Londres, à la limite beaucoup plus rapidement que d'autres villes françaises. C'est normal. À partir de là, personnellement, bah, j'avais envie de raconter un peu ce qui s'était passé en Bretagne depuis 50 ans, parce que dans pas mal de domaines musicaux et liés au rock'n'roll, on était un petit peu en avance. Alors, je ne peux pas résumer comme ça, mais ça a été une belle aventure de voir que grâce à la présence des ports, par exemple Brest et Nantes, le rock'n'roll est arrivé très très tôt en Bretagne, 61-62, à cause des troupes américaines qui débarquaient à Brest où il y avait encore des bateaux. Donc les Américains qui étaient là avaient des enfants qui jouaient du rock'n'roll. Et donc la Bretagne a succombé au rock'n'roll très vite à cause de la présence des ports, etc. À partir de là, on a écrit cette saga sur deux tomes. Voilà, la Bretagne existe en soi dans l'histoire du rock'n'roll en Europe. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu raconter.
L'album Rue de Siam de Marc de Sade, signé par Feu Thierry Aupin, sort en 1981. Composition sombre, production intense. Il a été produit par Stephen Nye et mixé au célèbre studio de George Martin sur Oxford Street à Londres, Air Studios. Marc de Sade était beau comme des dieux, et surtout Philippe Pascal et Franck Darcel, qui est mon invité. Cancer and Drugs, Don't Pop, etc.
Cancer suffer, please fix my nerve. De 7h à 24h.
Éclatez-vous.
Sur Radio 7.
99,7 MHz.
En modulation de fréquence.
Toute la journée, moi j'écoute Radio 7. J'ai même plus le temps de remonter mes chaussettes. Toute la journée, moi j'écoute Radio 7.
Ils sont un peu dubitatifs.
Ça vieillit un peu.
Et ça vieillit un peu, mais c'était quand même en 82. Et j'ai écouté Radio 7 à l'époque. Je pense que peut-être vous aussi.
Ouais, oui.
C'était bon. Les radios libres étaient déjà là, mais quand même, ça, c'était génial. Je me souviens très bien de la maison de radio à cette époque-là. Alors, on parlait pendant le disque. On écoutait évidemment le disque bien de Marc de Sade. Mais Patrick Vidal m'a dit qu'à cette époque-là, ce qui était différent, c'était que vous pouviez jouer et voir les autres groupes.
Bien sûr, l'explosion.
Dans les salles.
Oui, l'explosion punk anglaise a fait que les groupes sont venus jouer en province, parce que sinon, nous, on aurait joué dans nos caves pendant 10 ans encore. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés à faire la première partie des Flaming Groovies en 76, des Talking Heads. C'était très simple. L'organisateur nous disait, tiens, il y a un groupe lyonnais. Et du coup, c'est le fait de jouer, Philippe Manœuvre et Zermati sont venus à Lyon pour dire, tiens, il paraît qu'il y a des groupes. Ils ont pu les voir sur scène, sinon jamais personne n'aurait entendu parler de nous. Et ça a été très vite après. Hein. Il suffisait d'un magazine parisien comme Rock News et tout a explosé comme ça. Sinon, on serait resté dans nos caves, je pense, pendant 15 ans encore. Personne ne nous aurait jamais vu. Hein. C'est vraiment grâce à l'explosion du punk anglais qu'il y a eu tout ça.
Oui, alors, parce que les groupes, par exemple, Taxi Girl, avant même de faire ses premiers 45 tours, s'est rendu célèbre quasiment en faisant au Palace ses premières parties de Succion de Banshees, des Talking Heads, le fameux concert où Daniel Darc a joué du rasoir. Enfin, voilà, il y avait effectivement, à chaque fois qu'il y avait un gros groupe punk ou post-punk qui passait à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux, et il fallait prendre quelqu'un sur place pour faire la première partie. Et donc, c'était l'avantage de pouvoir trouver un public et trouver une salle pour tous ces groupes qui, sinon, n'avaient pas d'endroit pour jouer, quoi.
Alors, Jean-Éric Perrin, vous déplacez partout en France à cette époque pour écrire.
Oui, enfin, c'était un peu improvisé, mais bon.
Oui, mais c'était vraiment une vitrine sur la France. C'était pas parisianisme. C'était vraiment. Je prenais. Est-ce que vous étiez défrayé ou c'est vous qui décidez?
Non, moi, je me débrouillais. Des fois, je payais avec mes propres sous, mes voyages. En fait, c'était pas tout. Quand on dit toute la France, c'était des espèces. C'est un peu comme les villages d'Astérix, en fait. Il y avait Paris, il y avait Lyon avec donc Star Shooter, Marie les Garçons, Electric Alas. Il y avait Rennes avec Marquis de Sade, Dao et toute la bande. Il y avait Bordeaux avec les Stilettos, les Standards, enfin tous les groupes en ST. C'était pas. Je suis jamais allé à Limoges ou à Romorantin ou à Hénin-Liétard, quoi. J'ai rien contre ces endroits. Mais voilà, c'était juste des villes où il y avait des gens qui avaient, en fait, c'était regroupé par affinité autour d'une autre vision du rock, effectivement, qui devait plus au Velvet Underground qu'à Status Quo, tout simplement, quoi.
Franck Darcel, vous êtes toujours avec nous à Rennes.
Oui, oui, tout à fait.
Je voulais juste que vous sachiez comment on vous a pas oublié.
C'est gentil.
Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une retombée de la chronique de Jean-Éric, je ne sais pas, sur l'identité visuelle, de façon que vous rencontrez les gens, sur la mode, comment ça vous a touché?
Ah oui, non, absolument. Le...
Et sur l'industrie du disque aussi.
Non, mais le fait de passer dans Rock'n'Folk, qui était une réelle institution à l'époque, a été très important pour nous. C'est-à-dire que ne serait-ce que les concerts locaux, c'était des mensuels, je crois, hein, qui étaient vendus qui tiraient quand même à beaucoup d'exemplaires. Et ne serait-ce que localement, dans un premier temps, la chronique de Frenchy Batchik, d'abord nous mettait à nous donner un statut à Rennes, parce que nous, on venait aussi du punk, comme tout le monde vient de le rappeler. Donc on était mal considérés par les musiciens, on va dire, habituels, entre guillemets. Et d'un coup, on était dans Rock'n'Folk, et là... merci Jean-Éric, notre statut changeait, même dans les bars, etc. Et les concerts devenaient plus faciles à trouver. Non, c'était important parce qu'on était malgré tout un peu dans le Far West et il n'y avait pas de label en Bretagne à l'époque, etc. Donc on devait passer par Paris. J'ai rappelé qu'on a même joué au Golf Drouot. Le tram était plus de 3 heures à l'époque. Évidemment, il n'y a pas Internet, etc. Donc on... avoir des nouvelles de la presse nationale, entre guillemets, être répertorié, était forcément très important pour nous.
Et donc ça a engendré des labels, je pense, à Paris et un peu partout, mais aussi à Rennes. Alors, Franck Darcel, vous avez rencontré Étienne Dao à Rennes, évidemment, il vient de Rennes comme vous. Vous devenez son guitariste et son producteur jusqu'en 86. Vous avez produit, entre autres, La Notée. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce que vous avez trouvé en lui? Qu'est-ce qu'il avait de plus? Et qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a changé tout ça ?
C'est très difficile à expliquer parce que, comme le disait Jean-Éric tout à l'heure, Étienne était un ami de la bande, on va dire, autour de Marquis de Sade et ne montrait aucune velléité de chanter et organiser des concerts. Il était étudiant à la fac d'anglais. Il organise ce concert des Stinky Toys, mais même à l'époque, on ne savait pas qu'il voulait chanter. Et un jour, ce n'est pas la légende parce que j'étais assez proche d'Étienne pour le savoir, je crois que un ami astrologue d'Étienne lui dit « tu devrais chanter ». Et à partir de là, il décide de faire quelque chose. Et il démarre ses premières maquettes en fait, avec Richard Dumas, le fameux photographe rennais lui aussi. Et c'est Richard qui joue la guitare sur les premières maquettes. Et un jour, Étienne, comme on est très potes, me passe ça. Et nous, on est proche de la rupture avec Marquis de Sade. On a envie de changer d'air. Et j'écoute ça. Et cette espèce de texte qu'il y avait sur Mythomane à l'époque, ça a changé après. Mais cette espèce de texte un peu faussement naïf, me touche et je me dis bon, il y a quelque chose de différent. Et donc on a embarqué comme ça, mais c'était tout se passait très simplement dans des discussions dans les bars à Rennes, tout allait très vite à l'époque, hein. Il faut se souvenir d'une chose aussi dans cette époque-là, c'est que les groupes d'une manière générale enregistraient à peu près un album par an. On n'était pas en période de récession, de marché du disque, les idées pétillaient de partout et tout allait vraiment vite, quoi. Maintenant on est dans une période un peu glaciaire en comparaison.
Alors Jean-Éric parle des chansons d'Étienne Daho dans sa chronique comme adorables chansons d'histoire toutes simples d'amour et de quotidien, de rêve et réalité. Le talent de ce garçon est trop évident.
Et oui, ben là je suis bien tombé. Bon, faut dire que sur les 47 numéros de Frenchy Boutique, j'ai pas mis dans le mille à chaque fois comme je l'ai mis. J'ai pu le faire avec Étienne Daho ou Casse Product ou Rita Mitsouko ou Indochine, qui effectivement dont j'étais le premier à parler, mais avant même qu'ils fassent des disques ou avec juste un 45 tours. Il y a aussi beaucoup de groupes que j'ai encensés qui ont fait juste un 45 tours, qui se sont séparés après, ou certains n'ont même pas réussi à faire de disques. Mais voilà, effectivement, Étienne, moi je l'ai, c'était exactement comme Franck. C'était à Rennes, c'était la mascotte, en fait. C'était une espèce de petit frère qu'on adorait, avec qui on passait nos journées, nos soirées quand on traînait là-bas. Il mettait des disques dans une espèce de boîte qui s'appelait le Batchi, qui faisait à peu près 2 mètres carrés. Et voilà, et le jour où... Avant même, moi, j'ai fait sa véritable première maquette, c'est-à-dire avant même de faire des maquettes avec Richard Dumas, un jour, j'étais chez Étienne. Il m'a dit, tiens, j'ai fait une chanson. J'ai dit, tiens, je vais t'enregistrer. Et avec un petit magnétophone Philips, je tendais le micro vers la voix et vers la guitare et jouais sur une corde, parce qu'il ne savait pas jouer de guitare. Et voilà, mais il a fait des chansons presque par hasard, quoi. Il aimait tellement ça, de toute façon c'était obligé, il aimait tellement ça, il a une telle, et aujourd'hui encore il a une telle passion pour la musique et pour les chansons, que c'était obligé qu'il en fasse lui un jour. Il n'y avait rien qui nous garantissait à ce moment-là qu'il en ferait des bonnes. Il nous a évidemment prouvé qu'il avait ce talent.
C'est un peu le gardien du temple de cette scène aujourd'hui, en plus... Étienne Daho.
Oui, parce que d'abord parce que c'est une carrière qui dure, il y en a très peu de gens, enfin des gens qui ont été dans Frenchy Boutique et qui aujourd'hui sont toujours actifs. Il y a Étienne Daho, il y a Indochine qui a refaire le Stade de France, et il y a La Souris Déglinguée qui est dans un genre plus punk, qui existe toujours mais qui se reforme, qui se défait, voilà, qui se reforme, faire des concerts, des disques de temps en temps, enfin toi, qui sont toujours effectifs, et c'est à peu près tout, quoi, des gens de l'époque. Et Étienne, à travers ses 35 et quelques années, a réussi à toujours garder cette attitude et cette sensibilité, et surtout il n'a jamais vendu son âme au diable, donc c'est pour ça qu'il est une figure tutélaire et respectée.
Franck Darcel doit quitter le studio de France Bleu Armorique, mais avant qu'il parte, je sais qu'avec Patrick Vidal, vous avez monté un groupe ensemble qui s'appelle Octobre. Est-ce qu'on peut écouter juste un tout petit extrait?
Thank you. n'est pas une honte d'être amoureux même si on est en avance. Tu danses sous la pluie, je ne suis qu'un gosse. La jeune femme boit un café tandis que la pluie tombe.
Paulino Park, c'est Patrick Vidal et Franck Darcel, le groupe Octobre. Voilà. Une chanson qui s'est faite un peu parce que toi t'étais là et revenez nous rencontrer.
Et on s'est retrouvés en 82 à Rennes. Ouais, ouais. Le groupe le Lyonnais parti à New York et abouti à Rennes.
C'est un très bon souvenir pour moi. On
a J'adore cette chanson.
Première partie de David Bowie oui. en 83.
À Auteuil, ouais, en 83.
Ah,
Auteuil,
non.
C'était ouais. vraiment chouette. Mais après, avec Patrick, on a eu ce groupe ensemble. Hein, c'est, petite parenthèse, mais elle est importante. On a fait ce groupe qui s'appelait Senso. Mmh. Et mmh, dans aussi. Une formation voilà, qui était celle, en fait, la formation basique. Et on a fait un 45 tours qui s'appelait L'Océan ne sera pas à la fin. Et qui, pour moi, est l'une des choses les plus chères. De ce que j'ai fait en musique et après le métier du disque était si compliqué à l'époque que et pour d'autres raisons le projet a pas pu perdurer mais c'était oui c'est vrai on s'est retrouvé peut-être grâce à Frenchy Butchick en fait on a fini par faire tout un tas de choses ensemble.
Oh, merci en tout cas à Franck Darcel d'être venu à Rennes dans Pop etc ce soir. Merci beaucoup.
C'était un plaisir. Merci.
Le premier album de Dao, Mythomane, a été réalisé par Jack No, rêve devenu réalité pour le jeune René. Ils ont enregistré au studio d'Auteuil, au sous-sol. Étienne en garde des souvenirs de Nuit Blanche et de Fou Rire. Nous aussi. Étienne Dao avec le saxo qui court partout sur toutes les chansons, peut-être de Marquis de Sade, et on le retrouve encore dans Il dira pas.
Pop, etc. avec Valley sur France Inter.
Blind test à mes invités, Jean-Éric Perrin. Avez-vous reconnu les gens qui jouaient le jingle?
Electric Colors, so
ah,
chic.
C'est Patrick.
C'est my best friend.
Qui répond, exactement. On n'avait pas le temps de passer tout le monde, donc voilà.
Bravo. J'étais en train de chercher la grosse cagette.
À la demande d'Étienne Dao, rédacteur en chef du dernier numéro des Inrecuptibles, Christophe Comte a établi une généalogie de la pop française de 1930 à 2013. Par exemple, le groupe Cass Product est de la descendance de Pierre Schaeffer via Stinky Toys, Marquis de Sade et Taxi Girl. Duo synthétique nancéen, Mona Soyoc et Spatz avaient un look que Jeanne Masse a largement pillé avant de rentrer dans la musique mainstream des années 80. La voix de Mona était mi-jeune fille, mi-animal perverse, Dixit Perrin dans Frenchy But Chic. Les machines de Spatz étaient à mille lieues de la netteté technopop de Jackno ou Telex. Comme souvent, Jean-Éric, vous étiez le premier à en parler. Fondé en 1980, Cass Product split 8 ans plus tard. Ils se sont reformés et souvent, on est contents. Et ils seront bientôt en tournée avec un passage le 21 septembre à la Mariquenerie à Paris et le 16 octobre au festival Nancy Jazz Pulsion. Mona est au téléphone. Bonsoir Mona.
Hello tout le monde.
Comment allez-vous?
Je suis très contente d'être avec vous.
Émue d'entendre les voix de Jean-Éric et de Patrick.
Tout à fait.
C'est surtout nous qui sommes émus de l'entendre.
Ok, génial.
Souvenez-vous de la première fois que le nom Cass Product a figuré dans la chronique Frenchy But Chic?
Oh, je crois que c'était presque à la fin 81, je crois que c'est ça. Et je crois que Jean-Éric, déjà avant qu'on ait un disque de sortie, je crois, il est venu nous voir en concert. C'est bien ça?
Oui, non, vous aviez sorti 2 45 tours totalement autoproduits.
Voilà. 2 45 tours, bon, je rectifie. Ouais.
Mais enfin, oui, qui était confidentiel. Et sur les 45 tours, il y avait un numéro de téléphone. Et moi, j'avais tellement été fasciné par ce son nouveau. Parce que dans Frenchy But Chic, il y avait un côté à la fois très rock'n'roll et éthique, une espèce d'éthique du rock'n'roll. Puis il y avait aussi, parce que c'était nouveau et moderne, il y avait aussi tous les gens qui travaillaient avec des synthés, que ce soit dans le côté très technopop rigolo ou le côté très nouveau, agressif et puissant qu'inventait Cass Product. Et en fait, j'ai appelé ce numéro de téléphone, je suis tombé sur quelqu'un et je me suis présenté. J'ai dit voilà, j'aime ce groupe, je veux les voir parce que je travaille à Rock & Folk et je veux écrire dessus. On m'a dit ils font justement un concert là. Et donc, j'ai pris un billet de train et je suis allé les voir.
Est-ce que vous étiez étonné de voir un journaliste de Rock & Folk arriver à Nancy pour vous voir en concert?
C'était extraordinaire. Alors déjà, donc on a eu l'info et puis il arrivait à la gare à telle heure. Donc, on a été le chercher. On a été avant, je crois, je ne sais pas si on a été directement sur le concert. Et donc, en tout cas, je me souviens très bien de la soirée parce que j'étais dans la salle parce qu'il y avait d'autres groupes. En fait, c'était un festival qu'avait organisé une amie qui avait créé une petite association dans une salle de banlieue où il y avait plusieurs groupes de la région. Et nous, on est montés sur scène à notre tour, on a fait le concert et après, Jean-Éric est carrément venu. On habitait chez un ami dans un appartement et on avait un semblant de chambre. Nous, à l'époque, on répétait dans sa chambre.
Ah, d'accord, c'était pareil pour tout le monde. C'était vraiment en squat ou un peu do it yourself. C'était vraiment punk. Oui.
Et y avait une photo des années de Visconti, un film de Visconti sur le mur. Il a dit on va faire les photos là devant et c'est les premières photos qui sont parues en fait de Cass Product. C'était suite à une interview avec Jean-Éric.
C'est moi qui avais fait la photo aussi devant l'affiche.
Oui, c'est ça. Et je ne sais pas où dans quel espace tu as dormi, si tu avais dormi en haut ou en bas, parce que nous...
Dormi.
Il a dormi par terre, sans doute, avec... Et puis, le lendemain, on l'a ramené à la gare, il est reparti au train.
Voilà, ça se passait comme ça à l'époque. C'était bien, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de téléphone portable, non. Mais on arrivait à se trouver quand même.
Mais je me souviens très bien.
Oui, il y avait c'était rock'n'roll, comme on dit, et c'était live, c'était de l'aventure vécue, quoi. Mm-hmm. Et déjà, de rencontrer un journaliste, je ne sais pas, qui avait notre âge en plus, c'était complètement différent, quoi.
Est-ce que ça avait une répercussion sur votre carrière de Casse Product d'avoir eu cet article et ces articles dans Frenchy But Chic?
Ah oui, énormément. D'ailleurs, moi... Déjà, moi, c'était la rubrique que je regardais parce que ça parlait de tout l'alternatif français. Et puis donc, pour se faire connaître, pour se faire lancer, je pense que c'était une page où que tout le monde s'arrêtait dessus, quoi.
Et c'était facile de se voir entre groupes, tout ce qui se passait en France. Est-ce que vous vous retrouvez souvent? Est-ce que vous vous retrouvez à Paris? Comment ça marchait?
Grâce à Frenchy But Chic, on arrivait à savoir qui était qui, les noms, et à la rigueur, donc, quand il y avait des noms qui apparaissaient à Paris ou ailleurs, on pouvait les rencontrer, puisque nous, on a démarré quand même en tournée avec les Marquis de Sade, qui étaient de Rennes, qui est à l'opposé de Nancy, d'où on venait, quoi. Donc voilà.
Comment Casse Product a-t-il évolué depuis cette grande époque-là? Qu'est-ce qu'on va voir et entendre en tournée? Vous vous apprêtez à enregistrer et puis partir en tournée. Je vais donner les dates tout à l'heure, 21 septembre à Paris et le 16 octobre à Nancy.
Oui, eh ben, écoute, c'est quand même Casse Product, mais avec qui on est aujourd'hui, donc une dimension encore plus puissante et encore plus présente. Je sais pas, je pense que Jean-Éric est le meilleur... pour en parler, parce qu'il nous a vus, je crois que c'était en
Absolument,
novembre.
Oui. C'était à la locomotive, et moi j'ai été sidéré, parce que j'ai retrouvé effectivement les chansons de l'époque, mais avec un son d'aujourd'hui, avec une force et avec une vitalité scénique de Mona qui est sidérante. Quoi. L'hip-hop à côté, c'est comme s'il était dans un fauteuil roulant. Quoi. L'hip-hop à côté, c'est Adamo sur scène.
Ça donne envie de venir, Mona. Hein.
Oui,
et en plus, elle est beaucoup plus jolie qu'Iggy Pop.
Ah, ça a toujours été le cas. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. On va se voir très bientôt. En tout cas, j'espère. On va écouter une chanson que j'adore et j'adorais à l'époque. Ça me fait tellement plaisir de la réécouter ce soir. C'est Never Come Back, Casse Product, dans Pop, etc.
Never come back, and I bet you never knew what the people thought of you.
Cast, producteur, pop, etc. On termine l'émission sur Frenchy But Chic, Patrick Vidal, de Mary et les Garçons. Et aujourd'hui, vous êtes sound designer, DJ. Et qu'est-ce qui vous reste encore de cette époque? Est-ce que c'est encore...
L'attitude, la même attitude. Rien n'a jamais changé. Moi, c'est une passion depuis que j'ai 14 ans. Et tout ce qu'on a essayé de faire, de détourner les codes du rock'n'roll pour en faire quelque chose de nouveau et s'approprier de nouveaux codes, j'essaie de le faire depuis toutes ces années avec la house, avec l'électronique. Et je fais toujours de la musique aussi, donc tout, rien n'a jamais changé. J'ai l'impression d'avoir 17 ans tout le temps.
Oh, c'est bien ça. 17 ans, c'est vraiment le chiffre magique. C'est pareil pour moi. Jean-Éric Perrin et aussi Patrick Vidal, c'était 1978-1982. C'était aussi une période dure. Là, on raconte comme c'était la joie et la bonne humeur. Il y a beaucoup de gens, on voit dans le préface, de disparus de cette époque-là. C'était pas que...
Il y a plein de gens qui nous ont quittés, hélas. C'était une période dure parce que c'était il y a longtemps. On n'avait pas la même technologie. C'est une époque où il y avait encore la guerre Est-Ouest. Il y avait encore les communistes à l'Est qui étaient actifs. Donc, c'était vachement tendu, quoi. Et ça a été une époque où la jeunesse était encore très, très difficilement considérée. Je ne dis pas que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais enfin, c'était assez tendu quand même entre les autorités et les jeunes qui avaient des allures un petit peu différentes. Et puis, moi, ce que j'en garde aujourd'hui, c'est une espèce de parenthèse enchantée, comme ça, au tournant des années 80, avec des groupes qui sont arrivés avec une vraie attitude, avec un vrai sens esthétique et qui ont voulu faire des choses qui se moquaient totalement qui n'avaient même pas la notion du business autour de ça, quoi. C'était juste des gens qui avaient envie de créer des choses et il se trouve qu'ils ont créé des choses qui étaient bien. Et aujourd'hui, c'est tant mieux que si des jeunes groupes et des gens redécouvrent ça. Je pense que ça, effectivement, ça n'a pas vieilli, quoi.
Bertrand Burgala parle de vous dans la préface. Il dit que vous êtes un passeur. Ça, c'est un beau
compliment. C'est drôle parce que Bertrand Burgala, qui était un petit peu plus jeune, qui à l'époque, lui, n'était pas encore musicien, effectivement, était un lecteur assidu de cette rubrique et des groupes. Et aujourd'hui, lui, qui est un grand producteur, il reste persuadé que des groupes comme Suicide Romeo, comme Marais le Garçon, comme les premiers Taxi Girls, etc., étaient des vraies très bonnes productions, étaient des vrais moments de la musique française, pop, rock, tout ce qu'on voudra, peu importe, mais étaient des moments où il s'est passé quelque chose.
Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci aussi à Patrick Vidal, Franck Darcel et Mona Soyoc. Merci à France Bleu Harmonique. Merci aussi à Marie-France avec qui j'étais en contact. Les livres s'appellent Frenchy But Chic aux éditions du Camion Blanc. Toutes les infos liées à cette émission et l'actualité de nos invités, parce que c'est nombreux, sont sur notre site tapezfranceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. La semaine prochaine, dans la série des Hommes et des Femmes de l'Ombre, je reçois Nile Rodgers du groupe Chic, qui a récemment travaillé avec Étienne Dao. Je vous invite vraiment à découvrir les Incorruptibles avec Étienne Dao en rédacteur en chef, c'est super. Pop etc. a été réalisé par Eliane Girard avec Patrick Henry. Elle a été préparée par Corinne Valente. La programmation musicale est signée Djoubaka. Très belle nuit, juste après les infos. La lune a des oreilles, l'émission musicale de Muriel Pérez.